Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Si c'était à refaire, il ne choisirait pas Ibiza. Jean-Michel Blanquer ne démissionnera pas. Le ministre de l'Éducation admet un symbole malvenu, mais il assure travailler sans relâche pour l'école, vous l'entendrez. Les prix à la pompe n'ont jamais été aussi élevés. Reportage à suivre dans une station-service à plus de 2 euros le litre. On vous expliquera aussi pourquoi cette flambée est partie pour durer. Jean Castex, au chevet des restaurateurs, pénalisés toujours par les restrictions sanitaires, le détail des mesures dans ce journal. Un rebond des naissances, une espérance de vie en hausse. Les derniers chiffres de l'INSEE nous redonnent le sourire d'après 2 ans de Covid. Le temps demain sera souvent froid et humide. Attention au verglas, nous dira toutefois Marlène Duret. L'invité éco, c'est une nouvelle licorne qui pointe le bout de sa corne, donc le 26e en France. Et puis premier coup d'œil aux unes de la presse demain matin.
Europe 1.
Jean-Michel Blanquer ne démissionnera pas. Le ministre de l'Éducation avait détaillé son protocole sanitaire depuis Ibiza. Le poids du symbole et du timing de l'annonce, la veille de la rentrée scolaire. La carte postale tranche avec la pagaille à l'école. Elle a relancé l'opposition dans ses appels à la démission. Ce soir sur TF1, réponse de Jean-Michel Blanquer.
Écoutez, on est en période présidentielle, donc je crois que le mot démission sera prononcé par bien des candidats très souvent. Je pense qu'il faut garder le sang-froid. C'est très paradoxal aujourd'hui pour moi d'être un peu sur le banc des accusés, alors que je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur le sujet. J'ai pris 4 jours de vacances, j'ai travaillé pendant mes 4 jours de vacances. Donc je ne crois pas qu'il y a là véritablement matière à accusation. Par contre, je comprends le symbole d'Ibiza. Bon, l'hiver, ce n'est pas du tout comme l'été. J'étais juste en plein air, en lien avec le gouvernement, le cabinet et les interlocuteurs, comme d'ailleurs la chronologie le montre. Mais si on regarde froidement les choses, on ne doit pas non plus tous les jours se battre sa coulpe parce que les adversaires ont envie de vous déstabiliser. Donc s'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerais, parce que je vois bien la connotation qu'il a. Donc bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu. Mais sur le fond, ça ne changerait rien.
Ça ne change rien sur le fond, assure Jean-Michel Blanquer. Ça fait maintenant 15 jours que le ministre de l'Éducation est critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire à l'école. On l'a vu fragilisé par la grève des enseignants, maintenant par cette séquence Ibiza, avec des appels à la démission qui montent de l'opposition, Louis Dragnel. Et ce soir, Jean-Michel Blanquer tente donc de mettre fin à la polémique.
Oui, l'objectif de cette opération de déminage de Jean-Michel Blanquer est clair. Il reconnaît une erreur de discernement pour espérer tourner la page. S'il a dans un premier temps sous-estimé la polémique, en s'exprimant au journal télévisé de TF1, le ministre de l'Éducation nationale a voulu montrer qu'il a pris la mesure du problème suscité par ses 4 jours de vacances à Ibiza, juste avant une rentrée des classes sous Covid, très compliqué pour les parents d'élèves. Même si Jean-Michel Blanquer apparaît aujourd'hui assez isolé au gouvernement, Emmanuel Macron envoie également le signal qu'à aucun moment le départ de son ministre n'a été envisagé. Le chef de l'État souhaite maintenant éviter tout nouveau couac, car sa déclaration de candidature pour la présidentielle n'est désormais plus qu'une question de semaines.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, à moins de 100 jours de la présidentielle, l'exécutif ne prendra donc pas le risque de lâcher son ministre de l'Éducation. Et s'il y avait encore des doutes à dissiper, le Premier ministre Jean Castex a affiché son soutien ce soir à Jean-Michel Blanquer.
La question est, est-ce que les ministres pouvaient prendre quelques jours de repos pendant les vacances de Noël ? La réponse est évidemment oui. J'ai donné à tous les ministres des instructions claires. D'une part, être à plus de 2h, 2h30 de Paris. Et deuxièmement, être joignable à tout moment. Est-ce que M. Blanquer a respecté ses instructions ? La réponse est oui. Et j'ajoute, enfin, quelque chose là aussi, pardon, de bon sens. D'une part, M. Blanquer est parti quelques jours en congé à un moment, je le rappelle, où toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées de France et de Navarre étaient fermés. Et deuxièmement, et surtout, est-ce que le fait que M. Blanquer, qui était en vacances, nous a empêchés de prendre les décisions dès que nous avions les éléments nécessaires pour les prendre ? La réponse est non. L'appareil d'État a fonctionné dans les conditions qu'appelait l'évolution de la situation sanitaire.
Soutien donc de Jean Castex à son ministre Jean-Michel Blanquer. Arnaud Montebourg laisse tomber la remontada. L'ancien ministre va annoncer le retrait de sa candidature à la présidentielle. Ce sera dans les heures qui viennent. Il a enregistré une vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. Arnaud Montebourg plafonné à 1% des intentions de vote dans les derniers sondages. La candidature de Christiane Taubira éparpille encore un peu plus l'électorat de gauche. C'est une dépense dont vous ne pouvez pas vous passer et qui rabote souvent votre budget. De plus en en plus de Français doivent faire des sacrifices pour faire le plein. Les prix à la pompe continuent de battre des records, c'est simple. L'essence ne vous a jamais coûté aussi cher. Le gazole franchit 1,60€ le litre. On vous emmène dans une station-service de l'Est de l'Île-de-France. Là-bas, le sans-plomb 98 coûte plus de 2€ le litre, Marion Gauthier.
Oui, d'ailleurs, beaucoup de voitures défilent ici, ralentissent devant les pompes et repartent aussitôt, comme s'il était difficile pour les automobilistes de croire que la barre symbolique des 2€ le litre d'essence est passée. Djibril semble incrédule en voyant le compteur des prix monter deux fois plus vite que celui du sans-plomb 98.
Pour 2€ ? C'est facile à calculer, mais dans le compte bancaire aussi, c'est difficile à vivre avec. Et c'est incroyable, mais on fait avec, on n'a pas le choix. C'est sur la route, là, je suis en réserve, il reste peut-être 5 km, je suis obligé de mettre le plein.
Mario aussi était à sec, mais impossible pour lui de faire le plein. Il remplit juste assez son réservoir pour tenter sa chance à l'ère suivante.
Pour 10€, vous avez à peine 5 litres, ça fait mal au portefeuille. C'est horrible. Il y a 120€ en plus au mois. Ah, ça nous fait perdre à côté pour l'alimentation ou des trucs comme ça. À la fin du mois, oui, on est assez court.
L'utilisation de la voiture réduite à son minimum pour ce père de famille qui travaille dans l'automobile, inquiet de voir son budget carburant grimper de semaine en semaine.
Marion Gauthier. Alors quand on parle des prix de l'essence en ce moment, un record est à peine annoncé qu'il est déjà battu. Emmanuel Dutheil, pourquoi les prix à la pompe continuent-ils de grimper ?
Eh bien tout simplement parce que l'activité économique se porte bien. Et on a donc tout simplement besoin de pétrole pour faire tourner les usines à plein régime et pour faire voler les avions, pour faire rouler les camions, pour apporter tous les produits. Et ça va même un petit peu mieux que ce qui était prévu à un moment, puisque malgré le développement d'Omicron, l'activité économique ne s'arrête pas, bien loin de là. Et c'est là le problème, parce que ça coince du côté de la production qui, elle, ne suit pas. Il y a des problèmes en Libye ou au Nigeria. La situation à la frontière ukrainienne ou au Yémen inquiète également les investisseurs. Du coup, le prix du baril de pétrole s'envole. Pour le Brent, c'est-à-dire pour le pétrole produit dans la mer du Nord, on a atteint ce matin des records de 2014. C'est toujours compliqué, hein, bien sûr, de prévoir l'avenir. Ça dépend de tellement de facteurs. Mais si l'on en croit les experts des banques américaines, JP Morgan ou Goldman Sachs, le prix du baril de pétrole va continuer de progresser fortement dans les semaines à venir. Et donc, malheureusement, on peut s'attendre à de nouvelles hausses des prix à la pompe.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Des dépenses qui augmentent à la pompe et des revenus qui diminuent pour les restaurateurs. Jean Castex a dévoilé en fin de journée de nouvelles aides au secteur. Carole Ferry, un secteur toujours pénalisé par les restrictions sanitaires.
Et oui, il y a notamment le télétravail qui a un impact non négligeable sur l'hôtellerie-restauration. Beaucoup moins de déjeuners le midi, par exemple. Mais aussi l'interdiction des pots en entreprise qui plombe le secteur de l'événementiel. Alors le gouvernement avait annoncé une prise en charge des coûts fixes pour les professionnels qui perdent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires. Là, Jean Castex a décidé d'aller encore plus loin. L'État va prendre en charge 20% du salaire des employés des entreprises qui perdent au moins 30% de leur chiffre d'affaires. C'est exactement les curseurs que réclamaient les professionnels et qui vont un peu plus loin que ce qu'avait proposé Bercy. Enfin, pour les entreprises les plus touchées, celles qui perdent au moins 65% de leur chiffre d'affaires, Matignon annonce une mesure supplémentaire, l'exonération totale des charges patronales, des mesures qui concernent les sociétés de moins de 250 salariés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, mais aussi de l'événementiel et des agences de voyage.
Carole Ferry. Le journaliste Jean-Jacques Bourdin, visé par une enquête pour agression sexuelle. L'annonce du parquet de Paris fait suite à la plainte d'une ancienne journaliste de BFM et RMC. Elle accuse l'intervieweur vedette du groupe d'avoir tenté de l'embrasser à plusieurs reprises. C'était dans une piscine à Calvi en 2013, lors d'un déplacement professionnel. Jean-Jacques Bourdin conteste ces accusations.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Et si la France retrouvait enfin le sourire après 2 ans de Covid ? L'INSEE vient de publier son dernier bilan démographique et on y trouve de bonnes nouvelles. Céline Géraud, d'abord, en ce qui concerne la natalité, on a évité le baby crash.
Effectivement, 738 000 bébés sont nés en 2021 et c'est 3 000 de plus qu'en 2020. Pourquoi ? Mars 2020, souvenez-vous, le premier confinement, les incertitudes économiques avaient entamé l'envie de procréer des Français. Mais dès l'automne, eh bien, ce désir d'enfant a ressurgi avec un rebond des naissances depuis l'été dernier. Plus de bébés, plus de mariages aussi, plus 42% exactement. Un boom naturellement lié à la fin de l'interdiction des cérémonies en 2021. L'autre enseignement de ce bilan de l'INSEE, c'est la baisse de la mortalité. 12 000 décès de moins cette année. Mais attention, nous sommes encore en surmortalité par rapport à 2019. Les raisons, évidemment, l'épidémie de Covid et le vieillissement de la population. Conséquence, notre espérance de vie remonte légèrement. 85,4 ans pour les femmes qui gagnent 3 mois de plus qu'en 2020 et 79,3 ans pour les hommes qui, de leur côté, gagnent 2 mois.
Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. La vague Omicron n'a pas dit son dernier mot. Voici encore un chiffre dont on se passerait volontiers. 464 000 cas de Covid en 24 heures. Et attention, un record peut en cacher un autre. Pour la première fois, le nombre de contaminations quotidiennes dépasse la moyenne de 300 000 sur les 7 derniers jours. Sur le nez et jusqu'au menton, s'il vous plaît. Si vous aviez oublié la règle, les policiers vous la rappellent dans les rues de Paris où le port du masque redevient obligatoire à l'extérieur et plus exactement dans les secteurs les plus fréquentés. Un deuxième arrêté a été pris après l'annulation du premier par la justice. Le résultat, eh bien, c'est un peu de confusion. Wilfried de Villers l'a constaté à Saint-Lazare où, comme devant toutes les gares, il faut porter le masque.
Avec plusieurs changements des règles du jeu ces derniers jours, les Parisiens ne savent tout simplement plus sur quel pied danser. Baudouin, par exemple, vient de baisser son masque. Alors la nouvelle obligation...
Je ne le savais pas. J'avais entendu dire qu'il y avait eu un arrêté à Paris pour dire que le masque n'était plus obligatoire, mais je n'étais pas au courant qu'il était redevenu obligatoire depuis ce matin. Le problème, c'est plus la communication que les règles qui... à mon sens, sont plutôt logiques.
Face à ce manque de clarté, d'information, Yann préfère ne pas prendre de risques.
J'ai pris le pli de le mettre par habitude, mais effectivement, c'est en sachant pas trop s'il fallait le mettre ou l'enlever, vous voyez. Comme ça, au moins, je me pose pas la question, je le garde. Et j'ai pas, y a pas de débat comme ça, je le porte tout le temps.
Pour certains, difficile de se voir imposer le port du masque en extérieur, même si c'est uniquement dans les zones à forte fréquentation, alors qu'il faut déjà le porter au travail ou dans les transports. Judith ne comprend pas bien ces mesures.
Ça a du sens quand on est à l'intérieur et pas à l'extérieur. En fait, je porte le masque à l'extérieur, parfois je le mets, parfois je le mets pas. Je pars plutôt de mon principe du bon sens. En fait, je prends pas de risque quand je marche dans la rue sans masque. Dès l'instant où je vais parler avec quelqu'un, je vais le mettre, et voilà.
Parmi les lieux où il faut donc désormais se couvrir la bouche et le nez, les abords des gares, des centres commerciaux ou encore des écoles aux heures d'entrée et de sortie, les lieux de culte sont eux aussi concernés.
Un reportage Wilfried de Villers, gare Saint-Lazare à Paris. Le pass sanitaire sauve des vies, au moins 4000 dans la deuxième moitié de l'année dernière. Selon le Conseil d'analyse économique, l'arrivée du pass a fait grimper le taux de vaccination de 13 points, empêchant ainsi une surmortalité liée au Covid. Un pharmacien parisien en prison pour escroquerie au test anti-Covid. On apprend ce mardi qu'il a été mis en examen et écroué mi-décembre. Ce pharmacien est soupçonné d'avoir facturé des tests de dépistage imaginaire. Le préjudice pour l'assurance maladie s'élève à plusieurs millions d'euros. Marine Le Pen tenait il y a quelques heures une conférence de presse sur la présidence française de l'Union européenne. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si elle avait inscrit ce rendez-vous aujourd'hui à son agenda, car la candidate RN grille ainsi la politesse à Emmanuel Macron, qui s'adressera demain au Parlement européen dans ce cadre. L'Europe était en 2007 l'un des points faibles de Marine Le Pen. 5 ans plus tard, changement de logiciel, la candidate se pose en protectrice des peuples face aux européistes. Victor Chabert.
Exactement, Marine Le Pen veut faire oublier ses choix de 2017 sur l'Union européenne, notamment la sortie de l'euro qui avait fait peur à de nombreux électeurs.
Le débat sur la sortie de l'euro, nous l'avons tranché en 2017. Nous avons renoncé parce qu'en réalité, la politique qui a été menée par la BCE a, elle, totalement changé. Concernant Schengen, je n'ai absolument pas renoncé à retrouver la maîtrise de nos frontières nationales. Quant à la Commission européenne, je persiste à penser qu'en aucun cas, elle ne doit avoir les pouvoirs qu'elle s'est elle-même octroyés.
Marine Le Pen justifie donc ce changement en raison, selon elle, d'une réorientation monétaire et politique des institutions européennes ces dernières années. Elle veut désormais peser de l'intérieur et espère pour cela compter sur ses alliés de l'Est, la Pologne ou la Hongrie, gouvernés par des eurosceptiques. En revanche, sa ligne reste la même sur le fond. Elle promeut une Europe des nations, la supériorité du droit français sur le droit européen et un retour des frontières nationales, l'antithèse de ce que propose Emmanuel Macron, une façon également pour la candidate RN d'essayer de recréer le duel face au président de la République.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Microsoft ne plaisante pas avec le jeu vidéo. Dans sa compétition mondiale contre Sony et Nintendo, le géant de Seattle y va au rouleau compresseur. Pour nourrir sa Xbox, il rachète l'un des poids lourds du secteur. Activision Blizzard possède des licences très célèbres et populaires chez les joueurs du monde entier. Call of Duty, World of Warcraft ou Candy Crush. Microsoft a mis pour cela près de 69 milliards d'euros sur la table. C'est tout simplement du jamais vu, Aurélien Fleurot.
Oui, et cela vient surpasser le précédent record, pourtant tout récent. Hein. C'était il y a 8 jours, l'éditeur Take-Two annonçait le rachat du spécialiste du jeu pour téléphone Zynga. C'était près de 13 milliards d'euros et là, c'est donc 5 fois plus que Microsoft va débourser pour s'offrir le géant américain des jeux vidéo Activision Blizzard et donc devenir un acteur majeur de cette industrie derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Jamais Microsoft n'avait réalisé d'acquisition aussi onéreuse, mais il fallait bien cela pour exister face à la concurrence et à coup de rachats successifs, la stratégie c'est de construire une plateforme incontournable, un Netflix du jeu vidéo grâce au Game Pass qui permet de télécharger les jeux sur Xbox ou sur ordinateur. Un rachat qui survient alors qu'Activision traverse une période de turbulence depuis plus de 6 mois. Les accusations de sexisme, de harcèlement, de discrimination se succèdent. 40 salariés ont été licenciés, une quarantaine d'autres font l'objet de mesures disciplinaires. Le PDG semblait sur la sellette, il sera désormais encadré par le patron de la branche jeux vidéo de Microsoft.
Aurélien Fleurot. Les handballeurs français touchent du bois et font des tests. Le défenseur Karl Konan positif au Covid alors que les Bleus abordent le tour principal de l'Euro 2022 dans 2 jours. Karl Konan va donc manquer les 2 prochains matchs. Ça se passe plus mal encore chez les handballeurs allemands. Cluster dans leur rang avec 9 cas de Covid au compteur. L'Allemagne envisage de se retirer de la compétition. Le temps pour ce mercredi, Marlène Duret. Bah tiens, changement d'ambiance demain.
Et oui, l'anticyclone qui protège la France va faiblir et se décaler un petit peu. Résultat, une perturbation va en profiter pour entrer dans le pays. Alors bon, la journée va débuter généralement sous un ciel gris, brumeux, humide, avec quelques petites bruines hein, qui peuvent se mêler à des flocons ou elles peuvent aussi rendre les sols glissants. Type pluie verglaçante, vous voyez, plutôt du côté du Limousin, l'ouest de l'Auvergne, le Berry, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, ce sera vraiment très localisé. Et c'est surtout la nuit prochaine qu'on va surveiller les chutes de neige qui pourront se produire dans toutes ces régions, avec l'arrivée donc de cette perturbation, d'une perturbation par la Manche, 1 à 3 cm, pas plus. Cette perturbation va apporter donc déjà demain après-midi, avant d'arriver le soir dans ces régions, elle va arroser très localement les régions proches de la Manche. Et puis nous aurons l'après-midi toujours quelques petits flocons comme ça qui pourront voler vraiment sur cette diagonale, sur cet axe massif central, région du Nord-Est. Quand on va vers la Méditerranée, bon alors vous allez dire oui, il va faire beau. Bah pas forcément, on attend quand même quelques entrées maritimes, donc du Gard au Var et à la Corse, en passant par les Bouches-du-Rhône et ces entrées maritimes donc pourront donner quelques petites pluies. Mais bon, ce ne sera pas si mal vers le Languedoc-Roussillon, la Drôme, l'Ardèche, les Alpes-Maritimes. Et puis, grand beau temps encore pour les Alpes et les Pyrénées. Les températures, les maximales prévues, 7 à 11 degrés à proximité de la Manche et de l'Atlantique, ou encore au sud de la Garonne. Il fera un petit peu plus doux, j'ai envie de dire, près de la Grande Bleue, jusqu'à 14 degrés sur la Côte d'Azur. Et puis sur le reste du pays, ben, n'espérez pas plus de 2 à 6 degrés. 2 degrés à Besançon, par exemple, 4 à Bourges, 5 à Agen ou encore 6 à Paris.
Merci Marlène. Nouveau point avec vous à minuit pour la météo. Dans un instant sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamon. A tout de suite.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
À 22h19 sur Europe 1, Top à Wall Street avec Didier Hamon. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street qui accuse le coup hein, ce soir avec les valeurs bancaires.
Wall Street qui chute lourdement. Le Dow Jones recule d'1,5%, 1,51% exactement, 35 368 points. Le Nasdaq cède 2,57%, 15 210 points. Les valeurs bancaires, oui, sont secouées après les résultats jugés décevants de Goldman Sachs qui perd 7%, 354 dollars. Morgan Stanley recule de 5%, JP Morgan moins 4,5%, Bank of America moins 3,5%, Citigroup moins 2,5%. Il y a le secteur des jeux vidéo, on en parlait à l'instant, qui s'agite évidemment alors que Microsoft annonce lancer une offre sur Activision Blizzard. Ça donne Microsoft en baisse quand même, hein. C'est une opération très très lourde de près de 69 milliards de dollars. On a Microsoft qui perd 2,3% exactement, mais Activision Blizzard grimpe, s'envole, s'ajuste en hausse de 25%, 82 dollars ce soir à la clôture. Les autres valeurs de technologie sont quand même très lourdes. Apple moins 2%, Tesla moins 2% aussi, Google moins 2,6% et Netflix moins 2,8%. Il reste le pétrole qui est toujours aussi haut perché, 87 dollars le baril ce soir au plus haut depuis 7 ans.
La Bourse de Paris en baisse ce soir, elle aussi, Didier, c'est un recul de près de 1%.
Moins 0,94% de retour à 7133 points. Le secteur industriel a souffert à l'image de Plastic Omnium, moins 4% de Beneteau, moins 3% d'ST Micro, moins 2%. Et puis les valeurs de santé continuent de se dégonfler. On a Valneva, moins 5%, AB Science, moins 4,5% ou Biomérieux qui perd encore 4% de retour sur la barre des 100 euros.
Et un petit mot donc d'Activision Blizzard, Didier Hamo, c'est l'exception du jour, hein, l'action de ce géant du jeu vidéo qui flambe de plus de 11%.
Hein. Oui, alors c'est Ubisoft qui en profite évidemment, hein, puisque ça s'agite sur le secteur des jeux vidéo et par effet d'entraînement, le leader européen du secteur Ubisoft s'envole de 11,8% ce soir, un rebond à plus de 50 euros pour Ubisoft. Les autres places financières sont en baisse assez nette, hein, le DAX, moins 1%, Bruxelles, moins 0,7%, Madrid, moins 0,7% aussi, Milan, moins 0,6% et le CAC 40, donc en baisse de 0,94%, 7133 points.
Merci Didier Hamo. À chaque jour, sa nouvelle licorne, ou presque. Ce soir sur Europe 1, on vous présente la 26e licorne française avec l'invité éco, Rodolphe Ardan est le cofondateur de Spendesk, il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Rodolphe Ardan.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Spendesk. Alors c'est quoi Spendesk ? Eh bien c'est la 26e licorne de la French Tech. Chaque soir, quasiment, dans cette case de l'interview éco, ces derniers jours, on a la chance d'avoir l'une de ces licornes. Vous, vous êtes dans le domaine financier. Pour faire très très simple, en tout cas, vous êtes né comme ça. Vous avez permis de simplifier les notes de frais grâce à une carte bancaire. Et puis depuis, vous vous êtes fortement développé pour aider justement les directions financières à avoir des outils pour leur faciliter la vie. C'est comme ça qu'on peut présenter Spendesk ?
C'est un bon départ. Ce que fait Spendesk, c'est vraiment, on va libérer les entreprises de toutes les contraintes qui sont liées au paiement. Et ça va plus loin que la note de frais, c'est vraiment tout le paiement au travail. Donc typiquement, on permet aux collaborateurs d'une entreprise de pouvoir accéder aux moyens de paiement de l'entreprise. Ça peut être une carte, ça peut être un remboursement de frais, ça peut être de payer un fournisseur au sein d'une seule plateforme, ce qui permet du coup à l'équipe financière d'avoir cette visibilité à 360 sur l'ensemble de ses flux. Et on automatise tout le travail.
Donc vous leur facilitez la vie, hein, c'est ça qui est bien évidemment le plus important chez vous. Et semble-t-il, ça marche fort parce que vous êtes donc, depuis ce matin, la 26e licorne française. Vous êtes né en 2016, en tout cas les fondements sont nés en 2016. Vous attendiez à ce que ça aille si vite ?
On l'espérait, on en avait l'ambition.
Ah oui, dès le démarrage, c'était votre ambition.
C'était notre ambition, vraiment, de construire cette nouvelle norme, ce nouveau standard du paiement au travail. Comment est-ce qu'on permet aux équipes financières de s'inscrire dans cette nouvelle manière, cette modernité de travailler. Donc oui, dès le début, on avait cette ambition de changer les choses. C'était très intéressant au début, c'est-à-dire que toutes les personnes qu'on interviewait nous disaient, d'une part, le paiement au travail, on n'est pas satisfait. C'est un process qui est compliqué, qui est très chronophage. Mais en même temps, on s'y est habitué, c'est comme ça qu'on fonctionne, il y a une sorte de statu quo qui est là. Et c'est là qu'on a vu l'opportunité, il y a vraiment l'opportunité d'inscrire ces nouvelles manières de travailler dans le 21e siècle, et c'est ce qu'on fait. Donc l'ambition a été là depuis le début. Après, il y a l'ambition et il y a l'exécution, la capacité d'eux. Donc on est très 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 heureux d'annoncer aujourd'hui qu'on a levé 100 millions d'euros supplémentaires et qui nous fait passer dans ce statut de licorne.
Alors les licornes, hein, c'est les entreprises qui valent plus d'un milliard de dollars. Ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas voulu communiquer votre valorisation exacte grâce à cette levée de fonds. Pourquoi être si discret ?
Parce que je pense que ce qu'il faut célébrer, c'est pas la valorisation, c'est-à-dire que le montant lui-même en tant que tel. Ce qu'il faut célébrer, c'est finalement cette croissance de ces nouvelles entreprises qui développent des nouveaux usages et qui développent des nouveaux marchés. Donc je suis pas philosophiquement sur une transparence des valorisations parce que je trouve que ça donne les mauvais indicateurs d'un point de vue public.
Alors vous travaillez avec les entreprises, je crois, de 50 à 1000 salariés. Ce qui est marrant, c'est que parmi vos 3500 clients, il y a d'autres licornes, par exemple Doctolib et Deezer, je crois qu'ils font partie de vos clients qui sont également des licornes. À quoi va servir l'argent que là vous levez ? À accélérer, j'imagine, et notamment à embaucher ?
Alors surtout à embaucher, on a un plan de recrutement qui est très ambitieux. Aujourd'hui, on est 400 collaborateurs chez Spendesk et on cherche à tripler nos effectifs dans les deux prochaines années. Aujourd'hui, on opère déjà en Europe, on opère en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, mais on est tout petit par rapport à ce nouveau marché. Vous parliez de notre cible, on s'adresse à des entreprises entre 50 et 1000 collaborateurs. Aujourd'hui, on en sert plus de 3500 qu'on équipe. 3500, ça paraît énorme en 5 ans, mais c'est minuscule par rapport à l'opportunité de marché. Des opportunités comme des entreprises comme ça, il y en a plus d'un million rien que dans ces trois pays. Donc on a besoin de capitaux pour accélérer, pour recruter des talents principalement des ingénieurs. Pour
et vous les trouvez, ces ingénieurs?
Alors, on va pas. Le marché est quand même extrêmement tendu.
Parce que là, ce qui est impressionnant, c'est que toutes les licornes qu'on a pu faire ces derniers soirs, et par exemple Exotech hier, qui était la toute première licorne industrielle, eux aussi, ils cherchent 500 ingénieurs. Là, quasiment dans les semaines à venir, est-ce qu'il y a un moment, tout ce que vous en êtes, mais comme pour beaucoup d'autres entreprises, ce n'est pas le plus gros frein à l'accélération ou au développement de votre croissance, cette difficulté à recruter?
Le recrutement, c'est le plus gros frein aujourd'hui à la croissance de ces entreprises. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que le marché est là, la demande est là, la capacité d'accélérer est là, les capitaux sont là. Ce qui nous manque, ce n'est pas les talents, parce que les talents sont là, mais c'est l'accès rapide aux talents.
Ça veut dire quoi, l'accès rapide aux talents?
C'est-à-dire, dans un contexte d'hypercroissance comme le nôtre, nos effectifs, grosso modo, doublent quasiment tous les ans. Là où, quand on est, il y a 5 ans, on était une entreprise de 15-20 personnes. Aujourd'hui, une entreprise de 400 personnes. Demain, on serait une entreprise de 800 personnes. C'est 300-400 nouvelles personnes à rajouter cette année. Et l'an prochain, ça sera 700 nouvelles personnes à rajouter. Donc finalement, comment est-ce qu'on arrive à trouver aussi rapidement ces talents et comment est-ce qu'on peut structurer notre organisation pour pouvoir faire en sorte que, même quand on les trouve, que les personnes puissent être efficaces et efficients dans leur travail. Donc, quand je parle d'accès, c'est finalement comment est-ce qu'on peut arriver à trouver les bonnes personnes suffisamment vite pour ne pas ralentir, en effet, la croissance de l'entreprise.
On le disait, Spendex est spécialisé dans la gestion des dépenses d'entreprise. À ce titre-là, vous êtes une très bonne vigie de la façon dont soit les boîtes sont gérées, mais également comment elles vont, puisque généralement, si on fait un peu de notes de frais, si on gère un petit peu tout ça, c'est que ça va plutôt pas trop mal. Est-ce que vous avez le sentiment que vos clients vont bien dans cette période de reprise historique?
On a vu une année 2021 qui était exceptionnelle. D'ailleurs, c'était intéressant de voir les effets de la pandémie sur les dépenses d'entreprise. Pendant le premier confinement, il y a eu un arrêt total. Il y a eu un arrêt total, les entreprises se sont mises en pause. Et on l'a vu, nous, sur les dépenses opérationnelles, que ce soit les encore frais de déplacement, évidemment, pendant la pandémie, il n'y en a pas eu, mais au-delà, tous les achats. Et pendant deux mois, pendant que les entreprises s'adaptent à cette nouvelle norme, cette nouvelle manière de travailler, on a vu vraiment une chute de l'ensemble des dépenses. Mais dès que les entreprises se sont habituées à ce nouvel usage, nous, on a vu une croissance très forte, notamment beaucoup de dépenses qui sont passées sur le monde virtuel, sur le monde en ligne, donc beaucoup d'activités e-commerce dans le mix d'achat des entreprises. Et depuis, du coup, avril-mai 2020, on a eu une croissance absolument exceptionnelle.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Rodolphe Ardan, le cofondateur de Spendesk, qui est donc la 26e licorne française. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci Emmanuel. On vous retrouve également demain avec Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Et pour répondre à une question qui nous concerne tous, les prix vont-ils, oui ou non, augmenter dans la grande distribution? Votre invité sera Michel Biérot, l'un des patrons de Lidl.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Les unes des quotidiens demain matin. Eh bien, demain, on sera à la veille d'une nouvelle grève des enseignants. Et voici que le cas Blanquer met le gouvernement dans l'embarras, titre Le Figaro. À l'Assemblée, le ministre de l'Éducation a dû répondre aujourd'hui aux critiques de l'opposition sur ses vacances à Ibiza, d'où il a finalisé le protocole controversé de la rentrée scolaire. Libération, pendant ce temps, rebaptise Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Boulet, il fallait l'oser, critiqué depuis plusieurs semaines pour sa gestion chaotique du Covid. Le ministre de l'Éducation est désormais épinglé, écrit Libé, après avoir géré le protocole sanitaire de rentrée depuis Ibiza. Les prix à la pompe vont continuer à grimper, titre Ouest France. Emmanuel Duteil vous expliquait d'ailleurs pourquoi il y a quelques minutes dans le journal sur Europe 1. C'est que, tiré par la demande mondiale, le prix du baril de Brent n'avait plus été aussi élevé depuis 7 ans. Et cette hausse du cours du pétrole se répercute naturellement sur les prix à la pompe. 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne. On retrouve dans un instant Sana Blanger pour vous accompagner.